Fragmentaire sur Radio Gameuse avec nous.
Au pied du 49e mur d'Épinal, une nouvelle fresque vient d'apparaître. Des formes géométriques, deux figures humaines, des couleurs vives qui semblent émerger de la ville. Pour l'inauguration, je rencontre l'artiste Skio. De ses débuts dans la rue, entre courses nocturnes et murs improvisés, jusqu'aux fresques monumentales d'aujourd'hui, son parcours raconte une pratique en constante évolution. Une recherche qui se poursuit, d'un médium à l'autre, de la bombe aérosol à l'acrylique, jusqu'aux outils numériques. Avec cette nouvelle œuvre, dans la continuité de sa série Human in the City, Skio explore la question du double, mais aussi celle de l'artiste, toujours en mouvement, toujours en recherche.
Alors, je m'appelle Nicolas, mon nom c'est Skori, mais mon nom d'artiste c'est Skio, et je fais du graffiti depuis que j'ai 13 ans, donc il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Et j'ai commencé à peindre dans la rue, sans savoir que c'était interdit. Mes parents avaient divorcé, et je me suis retrouvé avec du matériel de mon père dans la cave. Et du coup, il y avait des bombes de peinture, et je m'amusais à peindre, à dessiner dans la rue, mais très naïvement et sans savoir que c'était interdit, juste pour m'amuser. C'était comme des pages blanches énormes. Et à cette époque-là, je faisais pas des trucs de dingue, hein. Mais voilà, c'était amusant. Et c'était une manière de pouvoir aussi m'amuser et avoir une certaine créativité dans mon espace, parce que j'ai toujours vécu dans des grandes villes. J'ai vécu à Nice, après sur Paris. Et donc ensuite, on est venu me voir quand j'avais 13-14 ans pour me dire que c'était interdit. Et donc à partir de là, à 13-14 ans, qu'on est un peu en rébellion, etc., et qu'on nous dit que ce qu'on fait, c'est interdit, mais que c'est quand même bien, c'est quand même kiffant, je prenais beaucoup de plaisir, j'ai commencé à regarder ce que c'était, donc le graffiti, la culture du graffiti, la culture hip-hop qui va avec, etc. C'était la culture émergente en France quand j'avais cet âge-là. Et j'ai commencé à trouver un pseudonyme et à voir qu'il fallait écrire son nom dans la rue et puis en mettre un peu de partout, etc. Donc c'est devenu une petite discipline à crayonner pendant les cours et puis après à sortir dans la rue et puis voilà, faire un peu de graffiti vandale. Mais tout en étant assez naïf parce que je connaissais personne qui faisait ça à Nice. Et ensuite j'ai fait des études après mon bac de design, produit et graphique. C'était la seule chose qui me plaisait, c'était de dessiner. Et je l'ai fait à Toulon. Et à Toulon, il y a une scène graffiti qui est beaucoup plus active, beaucoup plus développée, et avec une discipline qui était assez impressionnante pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études à Toulon, je voyais des mecs qui rentraient à 5h du matin, et que le matin en cours, ils étaient éclatés, mais ils avaient vécu un truc de dingue pendant la nuit. Et ça m'a interpellé, parce que c'était une autre version de la créativité et aussi du challenge et aussi de l'adrénaline qu'ils me racontaient eux après. Donc ils avaient des milliards d'histoires à me raconter le lendemain de ce qu'ils faisaient. Et donc j'ai essayé d'intégrer en fait ces groupes-là. Et en fait au début, c'est comme quand t'es nouveau dans des espèces de groupes, de clans, des choses comme ça. Eux, ils étaient, c'est comme pour moi un art martial, c'est-à-dire qu'ils peignaient que des trains. Ils peignaient pas des murs, ils peignaient pas autre chose. Ils collectionnaient les trains. C'était des trainistes. Et j'ai commencé à sortir avec eux, mais moi, j'étais juste là pour filmer. Je pouvais pas peindre encore. Il fallait que je fasse mes armes. Et ensuite, lorsqu'ils ont vu qu'ils pouvaient avoir confiance, parce que lorsqu'ils prenaient des risques, bah, je prenais des risques avec eux. Lorsqu'on se faisait courser, bah, je courais et j'avais les preuves. Donc c'était encore plus touchy, plus grave, quoi, si je me faisais prendre. Et donc voilà, donc, j'ai fait mes armes comme ça avec eux. Après, j'ai peint avec eux. Et puis à cette époque-là, c'était du coup dans les années fin 90-2000, il commençait à y avoir des petites jams, c'est-à-dire des festivals. Mais vraiment, ça se passait par exemple dans des casses de voitures, où justement, bah, ils s'en foutaient des murs là-bas, donc on pouvait peindre les murs, on se faisait des rassemblements entre nous, et on peignait. Et là, j'ai commencé à faire autre chose que du lettrage, et faire des personnages. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les gars qui faisaient des lettrages, et ben, entre les lettrages, il manquait des liens, il manquait des petites histoires. Et mes personnages arrivaient à combler ça. Donc du coup, j'ai développé un peu le lettrage pour aller vers tout ce qui est illustration. À côté de ça, je continuais le graffiti vandal. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. J'ai lâché un peu tout ce qui est un peu illégal pour faire plus de la fresque, on va dire, d'après-midi, pour le plaisir. Donc, avec des rassemblements, avec les copains, tout ça. À parcourir les festivals qui commençaient à être de plus en plus nombreux. Donc, à rencontrer aussi plein de gens qui avaient une expérience plus forte que moi et puis beaucoup de talent et donc rencontrer plein de styles. À cette époque-là, il n'y avait pas encore... Si, il y avait le début d'Internet. Il y avait Internet, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, il y avait des sites qui n'étaient pas trop connus où du coup, il y avait quelques trucs de graffiti. Et puis après, il y a eu Photologue. C'était un des premiers réseaux sociaux de photos où on commençait à mettre nos graffitis dessus. Et donc voilà, donc à force d'aller de festival en festival, on se fait inviter. Et j'ai pu élaborer plusieurs styles petit à petit de personnages en couleurs, de travailler la lumière sur ces persos, etc. Donc c'était très illustratif au début. Ensuite, je suis monté à Paris pour travailler dans la musique. Je faisais les pochettes de CD. Je travaillais dans un label de musique pour faire les pochettes de CD des artistes et les MySpace à l'époque. On customisait les MySpace. Les MySpace, pour les plus jeunes, c'est l'ancêtre, je ne sais même pas comment on peut dire ça, du blog. C'est qu'une seule page sur laquelle on mettait du son, des photos, etc. Et donc, il y avait moyen de trifouiller le code HTML et CSS pour en faire des trucs customisés. Voilà, donc je travaillais là-dedans, faisais les pochettes, les sites internet des artistes. Et puis à côté de ça, donc à Paris, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui étaient pas forcément issus du graffiti pur et dur comme je l'étais moi dans le sud, mais justement des artistes un petit peu qui s'étaient libérés de toutes ces chaînes un peu que le graffiti met, parce qu'il y a beaucoup de règles dans le graffiti. Et donc c'était bien aussi de rencontrer des artistes à Paris qui travaillaient sur d'autres types de créations, comme du collage, comme un mix média en fait dans la rue. Mais à cette époque-là, il y avait JR aussi qui collait encore dans Paris avant qu'il soit, enfin il était déjà connu, mais avant qu'il ait explosé. Mais j'ai rencontré des architectes qui faisaient un petit peu des structures prototypes qu'ils imprimaient en grand sur leurs traceurs et qu'ils mettaient dans la rue. Et en fait, à Paris, j'ai trouvé ce truc-là qui était super intéressant. En fait, ce qui est devenu un peu le street art, donc un grand contenant, pardon, avec plein de trucs artistiques dedans qui se passent dans la rue. J'ai monté des événements qui étaient illégaux dans Paris, mais c'était pour contrer les galeries. J'invitais tous les artistes que je connaissais à s'exprimer à travers des collages qu'on faisait après, comme une grande exposition dans la rue. C'était une espèce de happening. Donc en fait, à Paris, j'ai monté après une boîte d'événementiel. Parce que l'événement que j'avais créé dans la rue, qui s'appelait Rustique, et qui invitait tous les artistes à coller leurs créations dans la rue, est devenu quelque chose qui a eu un buzz. Donc on a commencé à 7 artistes, après 30, après 100, et puis pareil pour le public. Donc c'était un grand rendez-vous, un peu comme une espèce de happening ou rave party, mais qui se passe en un éclair, en une après-midi. Où t'as une foule d'artistes qui arrivent d'un coup, je leur donne le point de départ et puis ils arrivent. Moi, je faisais un repérage sur les rues qui étaient bien, donc je donnais un rendez-vous à une adresse à une certaine heure. Et donc tout le monde arrivait, les artistes collaient leur création, le public arrivait, on buvait des coups sur le mur, etc. Et puis après, on se cassait. Et la rue qui était en général en plein Paris, mais où il n'y avait pas trop de commerçants, etc. C'est, en fait, ça donnait de la vie et de la déco après, voilà, comme une galerie en plein air. Donc j'ai fait ça à Paris, très naïvement en fait. Hein, je suis monté à Paris, je pensais que c'était comme Berlin, où on pouvait faire tout ce qu'on voulait, etc. Donc naïvement, j'ai créé des trucs sans penser que c'était très grave de le faire. Et puis en fait, ça m'a donné l'opportunité de créer une boîte d'événementiel qui était spécialisée dans l'art urbain. Et à côté de ça, moi, je peignais toujours pour le plaisir. Donc voilà, donc j'ai commencé à conceptualiser des événements, à peindre toujours pour le plaisir. Et puis le confinement est arrivé il y a quelques années. Et puis en fait, les événements se sont cassés la gueule parce qu'on ne pouvait plus rien faire dehors. Et j'ai commencé à recommencer à peindre vraiment pour moi avec une vraie démarche artistique sur une série de toiles. Et donc c'est la série que je continue jusqu'à maintenant, donc ça fait 6 ans en fait que j'ai démarré cette série, cette démarche artistique qui est une réflexion sur l'homme dans l'espace urbain. C'est un mix de géométrie, d'abstraction géométrique, donc assez froide, des ronds, des carrés, des triangles, etc. Donc vraiment un assemblage géométrique qui fait penser un peu au mouvement du Bauhaus, qui est quelque chose qui m'inspire beaucoup, où on enlève un peu les arabesques et tout le superflu pour arriver à vraiment quelque chose de minimal et concis. Et à l'intérieur, la réflexion, c'était « Ok, ces formes géométriques, c'est censé symboliser et représenter l'architecture dans laquelle moi, j'ai toujours vécu, donc quelque chose d'assez froid. Les grandes villes, du coup, qui sont à Paris, en dehors de Paris, c'est des nouvelles architectures aussi qui sont très froides, avec des lignes très digitales, très faites à l'ordinateur. Enfin, voilà, les nouvelles architectures, elles sont un peu dénuées de tout ce qui faisait avant un peu le charme de la vieille pierre, des choses comme ça. Et donc, à l'intérieur... j'intègre des personnages figuratifs réalistes. Et du coup, c'est pour réfléchir à comment nous, on s'inscrit en tant qu'homme, avec un grand H, dans cette standardisation qui nous entoure, que ce soit l'architecture, mais la vie moderne, que ce soit même les réseaux sociaux maintenant, où on regarde tout à travers une case, où tout le monde est parfait, etc. Comment nous, en fait, humains qui avons... un corps qui n'est pas géométrique, on peut s'incarcérer à l'intérieur de toutes ces cases où on nous oblige d'être. Donc voilà, ça c'est les grosses lignes de ce que je fais. Et après, je m'amuse bien sûr avec ça, hein, pour que ce soit moins anxiogène, parce que là, quand je le raconte, c'est un peu dur, c'est un peu une réflexion sur ce qu'on vit. Mais voilà, je mixe ça avec beaucoup de couleurs, j'essaye de créer vraiment quelque chose qui soit dynamique aussi. Jusqu'à maintenant, je cachais en fait les yeux de tous ces personnages réalistes pour justement parler aussi de l'anonymat dans nos vies et aussi pour laisser place à l'interprétation aux gens de se mettre à la place des visages que je peins. Et là, spécialement pour le mur Épinal, ce qui nous concerne là, l'invitation qui m'a été faite de venir peindre à Épinal le mur, qui a un bon format, qui fait 8 mètres sur 3,30. Donc c'est un mur à programmation, comme il y en a de partout en France. Et donc là, j'ai eu trois jours pour peindre. Et c'est sur la thématique alter ego. Et alter ego, c'est la thématique du coup qui va être utilisée pour le festival Imaginal en fin mai. Et donc ma peinture, on m'a demandé en fait de travailler sur cette thématique. Et donc la peinture va rester durant le festival. Et cette peinture-là, en fait, à la base, moi, je travaillais beaucoup avec des bombes de peinture. Parce que venant du graffiti, c'est un truc assez naturel pour moi. Et là, j'ai troqué un peu mes bombes de peinture pour plus d'acrylique, pour plus de pinceaux, pour plus de texture, en fait, pour plus de mélange, en fait. Parce que la bombe de peinture, il y a toujours des rendus assez, assez clean, assez lisse, où on a un rendu presque digital sur mur. Et là, justement, je voulais casser ce rendu-là pour vraiment essayer de faire quelque chose de plus introversif où les personnages qui sont faits à l'acrylique ont des fêlures, de la texture et des coulures, etc. Et en fait, c'était vraiment pour que ça exprime une espèce d'introversion de tous nos sentiments qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, sur la fresque, il y a deux personnages. Donc, un qui est au premier plan, qui pourrait être visage d'une femme. Et un deuxième qui est en second plan, qui pourrait être un homme. Ou pas, en fait, c'est un peu l'alter ego, c'est un peu notre deuxième nous à l'intérieur de nous. Donc ça peut être n'importe qui. C'est comme on se voit aussi de l'extérieur ou de l'intérieur. Et donc il y a un jeu comme ça de discussion entre ces deux personnages qui sont en pleine presque méditation, les yeux fermés ou cachés. Et à l'intérieur d'eux, il y a un travail de texture, un travail de couleur... pour justement essayer de montrer toutes ces émotions-là. Et les formes géométriques dans lesquelles elles s'intègrent sont très colorées comme un espèce de prisme lumineux de toutes les émotions qu'on peut avoir tout autour de nous, mais aussi de la standardisation dans laquelle on se trouve. Donc essayer de trouver la lumière à travers de tout ça. Voilà, ça c'est un peu l'inspiration de la fresque.
Quand tu as commencé à peindre, tu as dit que naïvement tu l'as fait parce que tu ne savais pas que c'était interdit, mais quand tu l'as su, Est-ce que ce côté justement interdit et transgressif t'a permis aussi de continuer à développer ta création artistique?
Oui, alors quand j'ai commencé à peindre dans la rue très naïvement et qu'on m'a dit que c'était interdit, j'avais 14 ans, 13-14 ans. À 14 ans, on est plein d'énergie, qu'elle soit positive ou négative. Bon, quand on a 14 ans, elle est des fois très négative, mais c'est pas une négative en fait, c'est juste qu'on a un trop plein d'énergie, qu'on ne sait pas comment libérer ça. Et donc je faisais du sport, je faisais du skateboard dans la rue, des choses comme ça. Et le graffiti, c'était aussi une manière, comme le sport de rue que je faisais, d'avoir une certaine utilisation de la rue. Donc l'espace où on vivait le plus avec mes potes, etc., c'était de traîner dans les rues, etc. Donc le graffiti, c'était plus un espèce de challenge. C'était vraiment une espèce de recherche d'adrénaline et de pouvoir aussi se donner une identité. Parce qu'à 13-14 ans, on essaie de trouver un peu son indépendance par rapport à notre propre pensée personnelle, notre propre identité. C'est là où on commence à ne plus vraiment suivre les parents ou à vouloir vraiment s'en détacher. Et donc le graffiti permet aussi d'inscrire ça dans la rue, quoi. C'est de s'affirmer, de se libérer... de tout, de la légalité, de prendre sa rue, son environnement et de l'utiliser. Parce qu'en fait, on marche tous dans la rue, etc. Mais lorsqu'on devient actif dans la rue, c'est autre chose. Que ce soit la peinture ou le happening ou autre, lorsqu'on est, on peint sur des murs, on s'approprie des choses, on s'approprie aussi le paysage urbain, on le change, on le modifie. Et donc ça, c'est un développement personnel qu'on ne sent pas comme ça directement, mais indirectement, on fait quelque chose de fort, en fait. On fait quelque chose que les gens ne font pas forcément dans la rue, ou là où ils font que passer. Mais là, quand on commence à peindre dans la rue, on a des interactions déjà avec nous-mêmes, de dire « Ok, maintenant j'y vais, donc on peint. » Quand c'est illégal pour faire du lettrage ou des choses comme ça, des fois on prend des risques. Donc il y a un truc un peu physique aussi de peindre dans la rue. Il y a un lâcher-prise total. Et donc ça, c'est... Et puis il y a une espèce de challenge aussi avec les gars qui font la même chose. Les gars ou les femmes aussi, hein, parce que maintenant il y a de plus en plus de femmes dans l'art urbain. Et du coup, on a une espèce de discipline, de pratique dans laquelle on se retrouve tous. Donc c'est assez intéressant comme truc de créer une espèce de, pas de sous-culture, mais une culture underground qui passe par la musique, la danse... Par le happening, par la peinture, le graffiti et tout ça. Et en fait, on a les deux pieds dedans, mais sans le savoir, je suis rentré dedans comme ça. Et en fait, à la fin, tu te retrouves avec tout un environnement qui se développe. Et ça, c'est super intéressant. Donc, oui, ça m'a servi à développer mon champ artistique et aussi mon champ social. Parce que quand on peint dans la rue... un peu plus, pas légalement, mais là où c'est libre de peindre. Par exemple, quand je suis arrivé à Paris, j'ai beaucoup peint à Belleville. Et à Belleville, c'est un bordel ambiant de plein de gens qui viennent de partout dans le monde, de classes sociales différentes. Il y a autant des bobos que des gens à la gueule cassée, etc. Et on avait une rue qui s'appelait la rue des Noyers, où c'était justement un melting pot de tout ça. Et en fait, ils avaient donné des vieux magasins qui étaient laissés à l'abandon dans cette rue à plein d'anciens squatteurs d'un endroit. Et ils leur avaient à chacun donné une espèce de coque vide. Et en fait, ils avaient créé chacun une galerie d'art, un peu d'art du pauvre, parce qu'en fait, tous les artistes qui venaient sur Paris ou quoi pouvaient aller là, même loger là. Et en face de toutes ces petites coques remplies justement par des gens qui mettaient en avant l'art dans toutes ses couleurs et toutes ses facettes, en face de toutes ces coques vides, il y avait un mur qui était libre pour nous. Donc en fait, c'était devenu notre espèce d'atelier artistique où on pouvait se rencontrer, on passait des journées ensemble à parler, se rencontrer, peindre. Et à côté de ça, il y avait une maison de retraite, donc il y avait tous les vieux qui passaient par là. Et donc, c'est assez marrant d'avoir des gars qui boivent des bières, qui fument des joints, qui tchatchent, qui gueulent, qui machin et tout. Et puis, dès qu'il y a une mémé qui passe, tout le monde est respectueux. Et puis, à côté, t'as le marché, donc t'as plein de gens qui passent. Et puis, après, quand tu peins, tu te rends compte qu'en fait, les gens voient que t'es sur le mur pendant... que tu vas pas juste passer faire un tag et que tu fais une peinture. Tu vas rester une heure, deux heures, etc. Et donc, tu as une espèce d'aimant aussi social, tu vois, où tout le tissu social va te venir te parler. Que ce soit le gars qui traîne dans la rue, qui ne sait pas où aller, qui a peut-être... qui dort dans la rue ou d'autres qui font rien de la journée, ben ils vont venir te voir en disant « Ah putain, mais ce que tu fais, moi j'ai un tatouage qui représente un ange, ça me fait penser à ça, etc. » Donc tu deviens un peu gardien de ce tissu social en disant « Ok, je vais peindre, mais je ne vais pas faire que peindre dans la rue. » En fait, tu vas être une espèce de lien avec tous les gens, tu vois, qui vont venir te voir. Parce que déjà, ils savent que tu ne vas pas t'enfuir parce que tu es obligé de finir ta peinture. Et donc c'est assez marrant. Et après, ce qui est marrant aussi, c'est que les gens qui ne viennent pas forcément te voir parce qu'ils sont un peu impressionnés ou ils n'ont pas peur, mais ils ne veulent pas te déranger ou quoi, bah, tu les entends parler aussi derrière toi. Tu vois, ils ont leur propre impression de ce que tu es en train de peindre, leur propre interprétation, tout ça. Et les enfants aussi, c'est intéressant. Donc, en fait, ça développe tout de peindre dans la rue. Ça développe aussi le fait d'accepter qu'on puisse te critiquer ouvertement. Et quand tu es en train de créer quelque chose, c'est très bizarre. Et aussi, tu as droit à toute la connerie humaine. Des gens qui sont bizarrement pas contents. Mais ils viennent se plaindre, mais pas forcément de toi. Ils viennent se plaindre des autres qui font la même chose que toi. C'est assez marrant, c'est détourné. Moi, j'adore ce que vous faites, mais alors les autres, c'est dégueulasse. Mais vous, c'est super, hein, je dis ça, c'est pas ça pour vous. Et les gars, ils restent avec toi pendant un quart d'heure. Et en fait, ils chient sur tous tes potes, tu vois. Et des fois, ils se rendent pas compte que le mec qui dit oui, tu vois, le tag là-bas à côté, c'est dégueulasse et tout. Et en fait, c'est le même mec qui est en train de faire une jolie fresque, tu vois, à qui il parle, qui a fait ce tag là-bas. Donc, il y a une espèce de schizophrénie aussi qui se crée dans le graffiti. Et c'est ça aussi le graffiti. On a des blazes, donc des surnoms. C'est des surnoms qu'on a inventés nous. Donc, pour se créer aussi une espèce d'identité. Donc il y a un truc schizophrénique dans le graffiti où du coup on a plusieurs vies, c'est-à-dire que maintenant, bah, du coup il y a des artistes qui font du vandalisme, mais en même temps ils ont une carrière artistique et qui vendent des toiles ou qui sont invités pour faire des murs, qui sont payés pour ça, etc. Donc on a un peu tout dans ce milieu-là qui est en pleine évolution, pour le bien ou pour le mauvais, parce qu'on est parti vraiment sans savoir si on allait pouvoir gagner notre vie avec ça. Enfin, on voulait pas, en fait, gagner notre vie avec ça. Et maintenant, on fait les choses pour gagner notre vie avec ça. Donc, quand l'argent vient dans un milieu qui n'est pas forcément fait pour vivre de ça, ça modifie toujours un petit peu la donne aussi, et artistique aussi.
J'ai vu aussi que tu as voyagé un peu à travers le monde, que tu as fait des fresques un petit peu partout. Et tu m'as parlé de ce bouillonnement à Paris. Justement, tu m'intrigues. Je pense particulièrement à Berlin. Est-ce que tu connais ce lieu d'artiste qui malheureusement maintenant n'existe plus, Tacheles?
Oui, j'étais allé il y a très longtemps. J'ai eu une petite copine qui m'a obligé à poser mon téléphone et à dire « Ok, on se fait une détox téléphone, etc. » Et du coup, elle m'a amené là-bas, à Berlin. Et du coup, on est arrivé là-bas. Donc c'est elle qui m'a fait le séjour un petit peu, tu vois. Je suivais un peu la marche, moi. Et en fait, Berlin, c'était un truc de dingue. Déjà, Berlin est très grand. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Donc, si on prend le métro d'une station à une autre, ce n'est pas comme à Paris. C'est beaucoup plus élancé. Et ouais, il y a plein de trucs qui m'ont... pas choqué, mais impressionné. Déjà, cette liberté. Donc, Berlin, oui, c'est peint de partout. Et tu as ce lieu-là. Et ce lieu, du coup, avant qu'il soit détruit, on est allé dedans. Ça fait penser à une espèce de squat, mais c'est légalisé. Enfin, c'était légalisé. Et ça me fait penser un peu au 59 Rivoli à Paris, qui est un lieu, un ancien squat qui est en plein centre de Paris, qui est légal. Et donc, il y a un foisonnement, tout est peint. Et donc, ouais, ouais. Et donc, là, tu as une espèce de melting pot aussi de gens qui viennent, qui créent. Après, ils projetaient aussi des films le soir, je crois, dans la cour, etc. Donc, ouais, ouais, j'ai vu ça. Mais Berlin, c'est très étrange parce que. Enfin, c'est pas étrange, c'est un foisonnement. Et les Allemands sont très, très rigoureux en général. Tu vois, j'ai une galerie qui est à Düsseldorf et dès que je mets un pied sur. Que je marche sur le truc de vélo, et je me fais engueuler. Dès que je mets un pied pour traverser et que c'est pas. Je me fais engueuler. Et donc, c'est assez marrant. Et pourtant, il y a un lâcher-prise aussi en Allemagne. Ils sont très extrêmes aussi hein, dans leur lâcher-prise et puis même dans la musique, etc. Enfin, ils ont vraiment un rapport avec la création qui est direct, assez brutal même des fois. Et donc, c'est intéressant. Et j'avais logé aussi dans un hôtel qui était assez fou, où chaque pièce, chaque chambre avait un concept. Une chambre, c'était le concept de la prison. Il fallait, pour aller dans la salle de bain, il fallait passer par un trou défoncé dans le mur, un peu comme dans un squat. Et nous, on était dans la chambre des lions. Il y avait des cages. On dormait dans des cages. Et là, c'était une bonne expérience. Et la nourriture aussi, c'est assez spécial. Mais ouais, c'est cool, Berlin. Et oui, le lieu était cool, pardon. Le lieu était bien, il y avait un foisonnement, etc., qui m'a plu. Mais il y avait celui-là, mais pour moi, ce lieu-là était beaucoup en intérieur. Et en intérieur, bah, moi, je connais plus l'art en extérieur. Et donc, je me sentais un peu oppressé, parce que bien que la peinture de partout, c'est cool, hein. Mais après, il faut aller à l'extérieur. Et dans Berlin, il y a plein de lieux qui sont peints à l'extérieur. Il y a même des anciens bouts du mur qui sont peints, qui sont encore exposés. Donc, ouais, t'as un foisonnement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le temps et les voyages et l'expérience aussi a fait beaucoup évoluer ta pratique et ton style. En faisant un tour sur ton site internet, hein, on voit que tu as des moments, des phases un peu plus oniriques, des phases plus surréalistes, des phases plus déconstructivistes. Et encore, là, je mets des étiquettes qui sont assez... comment dire, vulgarisante. À chaque fois, je suppose que ce style était le reflet d'une partie de toi de cette époque, de chaque période de ta vie. Et sans oublier aussi que tu ne te contentes pas que de la peinture à la bombe, comme tu l'as dit précédemment, mais tu fais de la peinture au pinceau, de l'art numérique. Qu'est-ce qui a influencé toutes ces évolutions au fur et à mesure?
Alors, la vie, en fait, les rencontres... Au tout début, du coup, de ma pratique, les dessins que je faisais dans la rue, c'était des trucs d'ado. Ensuite, c'était empreint de la culture graffiti, hip-hop, donc beaucoup sur le lettrage. Ensuite, il y a eu le fait de faire des personnages qui étaient inscrits dans la culture hip-hop. Donc des b-boys, des personnages un peu comme ça, stylés, avec des mouvements et tout, en jouant beaucoup avec la couleur. Ensuite, j'ai fait des études de design et donc mon style a évolué. Le travail de la typographie et voilà, le travail de la lettre est devenu plus un travail de typographie vraiment pour travailler parce qu'on avait des cours de typographie avec les différentes familles, les empattements, les machins et tout. Donc on voit qu'il y a des règles qui ont été faites par des gens qui travaillent sur les typographes, etc. Et donc il y a aussi les mouvements que j'apprends dans le design, le Bauhaus et d'autres choses. Et puis aussi... des inspirations différentes que la culture hip-hop, comme le surréalisme aussi, qui est génial. Donc, en fait, mes styles ont un peu évolué à travers toutes ces inspirations. Donc, au début, c'était très hip-hop, très perso, etc., graffiti. Et ensuite, ça a été plus de l'illustration onirique, comme tu disais. Ça a été aussi... dans le design, on fait, c'est un mix, le design ça vient de dessin, mais D-E-S-S-E-I-N, c'est un dessin avec un objectif, mais aussi avec toutes les contraintes. Et pour moi, l'art qui ne vient pas d'une famille aisée, la pratique, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'avais de l'argent, je peignais avec de la couleur, avec plus de peinture, plus de bombes de peinture. Et quand je n'en ai pas eu, moi, quand je suis arrivé à Paris par exemple, dans les années 2005-2010, et ben en fait, j'avais pas trop de thunes, je faisais beaucoup attention. Et donc, sur les murs, ben, j'achetais des gros pots de blanc qui coûtent pas trop cher et une bombe de noir. Et du coup, je faisais du dessin comme du croquis sur mur. Donc, ça aussi, ça a inspiré. En fait, les contraintes permettent de développer aussi un style ou une direction. Et après, tu as les inspirations d'avis de tous les jours ou alors des collaborations aussi. Dans le graffiti, ce qui est vraiment différent, enfin, ça se passe aussi dans d'autres arts, mais la collaboration entre les artistes, ça se fait beaucoup. Quand on peint dans la rue, on fait beaucoup de fresques à plusieurs mains. Et lorsque tu t'entends bien avec certaines personnes, parce que dans le graffiti, il y a beaucoup d'ego, dans le milieu artistique aussi, mais... Ce que je veux dire, quand tu t'entends bien, bah, que du coup, tu peux repasser certaines parties de l'autre. L'autre peut te repasser sans te poser trop de questions. Et que ça devient vraiment une œuvre complète qui ne t'appartient plus vraiment à toi, mais au groupe. Bah, du coup, tu as aussi d'autres inspirations que ça te pousse à faire ça. Et à un moment donné aussi, on a créé un crew, on a créé un collectif d'artistes qui s'appelait les Ghetto Farceurs, les GF. Et en fait, c'était un moment donné où justement le graffiti avait envie de s'enlever toutes les règles. Et nous, on se faisait des exercices pour casser nos gestes qu'on a l'habitude de faire. Quand tu dessines, tu as toujours des gestes qui arrivent. Et en fait, on voulait casser ça. Donc, on faisait des exercices où, par exemple, on avait la main qui peignait, qui était attachée à une corde. Et puis, on avait un autre de notre pote qui tirait sur la corde. À un moment donné sans nous le dire, et du coup ça crée un trait ou une phase, tu vois, un truc ça sort d'où ça, et en fait il fallait continuer la fresque avec ces traits là aléatoires. Donc on essayait de casser nous-mêmes nos propres moules dans lesquels, en fait, à force de faire du dessin ou quoi, ben on s'inscrit et ça crée des nouveaux styles. Donc il y a aussi ce genre d'exercice pour créer de nouveaux styles. Donc on faisait ça, on faisait peinture main gauche, main droite, justement pour avoir d'autres manières de peindre. Donc c'est que des expérimentations en l'art et dans l'art urbain, c'est pareil, il faut faire ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi à Épinal. C'est-à-dire que là, en général, je peins tout à la bombe. Bah, là, ça a été de l'acrylique, donc j'ai testé des textures, des coulures, mettre du fluo avec des couleurs plus ternes et puis les faire couler le fluo par-dessus, etc. Donc plein de styles, et c'est inspiré par la vie. En fait, il y a un truc qui me fait super flipper dans le milieu de l'art urbain et de l'art en général, mais beaucoup de l'art urbain. C'est peut-être parce qu'au début, on faisait le même lettrage de partout pour faire comme une espèce de campagne de communication sur nous-mêmes. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font un seul truc et qui le répètent. Et pour moi, l'artiste, c'est le garant de l'identité de l'humanité. Et en fait, on n'est pas des robots à reproduire toujours la même chose. Et donc c'est ce qui me fait un peu peur. Donc du coup, j'essaie toujours d'un peu de jamais refaire la même peinture, de toujours développer ça. Mais ce qui est aussi un peu flippant, c'est que quand tu rentres dans le milieu de l'art, avec les galeries, elles te reconnaissent, tu vois, à la sortie du confinement, vu que j'avais développé ce style-là, bah, elles avaient vu ce style-là sur Instagram. Elles avaient kiffé ce style-là et m'ont demandé « Ok, putain, on te connaît, on sait que tu changes beaucoup de style, mais là, ce style-là, ça plaît, on vend des toiles avec ça, donc essaye de pas casser ce truc-là. » Et donc là, c'est le début de la fin. C'est pour ça que quand je te disais qu'il y a de l'argent dans l'art, en fait, il faut vraiment pas se laisser enfermer là-dessus. Et c'est pour ça que je rebondis sur les différents aussi supports que j'utilise, le digital, le mur, la toile, le pinceau, etc. Ça permet aussi de pallier à ce truc-là, de faire tout le temps la même chose. Même si tu gardes un style, tu peux le développer sur d'autres supports. Et le digital, ça m'a amené aussi à la 3D, qui a fait que j'ai pu faire bouger mes œuvres, qui va m'amener à la sculpture. Là, en ce moment, je travaille avec une artisane d'art pour justement créer des... interprétation en marqueterie de bois et de laiton de mes peintures. Donc, garder un style, ça peut être bien, mais il faut le développer, il faut rentrer dedans, il faut un peu le secouer, même si on reste dans le même style. Mais de là à faire tout le temps le même dessin et le répéter et tout comme un robot, ça c'est le pire truc. Et c'est ce qui plaît en fait aux galeries. Hein. Les galeries, si tu fais un chat... Et ben du coup, c'est cool, ça plaît à tout le monde, les chats, c'est super cool, c'est super beau, etc. Tomber là-dedans, ça me fait super flipper.
Et justement, là, pour ce mur, tu as proposé quelque chose de nouveau, de différent. On te connaît en tout cas en ce moment pour ton style, pour tes fresques Human in the City, avec sur fond de formes géométriques des femmes, mais sans yeux, sans haut du visage. Et cette fois, tu proposes, on va dire, un prolongement, donc toujours ces formes géométriques, mais les visages entiers. Et non plus en noir et blanc cette fois, mais en couleur. En fait, il y a comme une évolution. Alors, est-ce que c'est par rapport au thème lié aux imaginales alter ego, ou est-ce que c'est toi aussi qui veux continuer à faire évoluer ta pratique volontairement pour ce mur ?
Oui, en disant que ce mur sert aussi de prototype, de test, de laboratoire pour pouvoir faire évoluer les styles. Étant donné qu'on n'est pas, attendu aux résultats qu'on a proposés auparavant. Des fois, quand on fait des commandes publiques, quand on fait des fresques avec des budgets et qu'on gagne des concours, par exemple, pour le faire, c'est sur croquis. Donc, on a une obligation de résultat sur le fait qu'on a proposé un croquis. Il a été présenté, donc le résultat doit être ça. Là, ce qui est bien avec les murs, c'est qu'on n'a pas le croquis à être validé à l'avance. Donc, on peut tester grandeur nature, c'est-à-dire assez gros, des choses qu'on ne pourrait pas tester forcément sur d'autres projets payés, mais des projets où, du coup, le résultat doit ressembler au croquis. Donc, c'est ce qui est bien. Et donc, oui, ça fait partie des évolutions. C'est-à-dire que, du coup, je ne casse pas tout, hein, je fais évoluer les choses. Les visages en noir et blanc, le côté très graphique, très digitalisé, etc. Autant ça me plaisait parce que le challenge technique d'arriver à faire des beaux visages, certes en noir et blanc et sans yeux, mais parce que intégré aux formes géométriques, c'est génial. Techniquement, c'était abouti. Et donc, à chaque fois que quelque chose est abouti, eh ben, il faut un peu le détruire. Parce que l'aboutissement à quelque chose de trop parfait, c'est chiant. Le charme et l'humanité vient des fêlures, des fissures, des choses aléatoires, des accidents. Et donc, quand on maîtrise trop quelque chose, c'est la mort de la création, je trouve. Donc, du coup, ce mur-là est un peu un prototype de mon style un peu fissuré, un peu trituré, un peu modifié. Mais pour moi, il a plus d'humanité. Donc ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai travaillé différemment ici. Et puis oui, ça fait un espèce de tremplin pour continuer un peu à tester ça. Ce qui va être marrant maintenant, c'est la gueule de mes galeristes et de mon audience Instagram, mes petits followers géniaux qui s'attendent à ce que je fasse toujours la même chose. Que j'adore, parce qu'on adore les likes et les followers. Et du coup, là, je sens que du coup, ça va leur faire un peu bizarre.
Donc, le mythe de l'artiste éternel insatisfait n'est peut-être pas si faux que ça, dans la mesure où même toi, en tant qu'artiste, tu n'estimes pas qu'il y a un accomplissement absolu, mais une constante évolution dans ta pratique artistique.
Oui, je pense que les artistes qui sont contents d'eux-mêmes ne sont pas des artistes. Ce sont des gros prétentieux qui sont contents de ce qu'ils font. J'ai pas été élevé comme ça, en fait. Alors, c'est peut-être bien d'être content de soi, et j'adorais être content de moi. Mais oui, je suis un éternel insatisfait, mais à tous les niveaux. Hein. Mais ouais, un artiste qui est satisfait de lui-même, ouais, ça cache quelque chose d'encore plus perturbant. Hein. C'est très, très... très bizarre. Les gens qui sont contents d'eux-mêmes, en général, les gens heureux, c'est très bizarre, les gens heureux. Non, ça pousse pas plus loin, les gens heureux. Ok, bon, ils ont la baraque, le chien, et puis voilà. Non, je rigole, mais en vrai, oui, moi, je fais partie de ces internels éternels insatisfaits. Et on se pose beaucoup la question de savoir si un truc plaît, et si on a de l'argent par rapport à la toile qu'on fait, etc., est-ce que c'est ça qui nous satisfait ? Donc du coup, où est la satisfaction ? Est-ce que c'est la gloire ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est du coup... Mais d'être contente de sa propre création. Moi, dès que je la finis, la création, je vois que les mauvais trucs. Mais c'est bien parce que les autres, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'une fois qu'on passe le flambeau, qu'on a fini la peinture, on a un peu de crème, tu sais, par tous les gens qui t'envoient que des bons trucs, tu vois, sur Instagram, tout ça, même si c'est très politiquement correct et très... ouais, des fois, ils sont gentils sur Instagram. Ça sert à ça, je pense, les réseaux, tu vois, tant qu'ils sont gentils. Ça sert aussi à un peu rassurer l'artiste qu'il n'a pas fait que de la merde. Mais j'aime bien, en fait, les directions que prennent mes peintures, tu vois. Mais de là à dire, waouh, celle-là, elle est géniale, non, je déteste ça.
Ta fresque arrive juste après celle de Pro 176. Des visages, des couleurs, des formes géométriques. On pourrait dire qu'il y a un certain lien, une ressemblance, un style qui va dans un même sens pour vous deux, non ?
Oui, Pro, gros respect à Pro, qui fait vraiment partie du paysage hip-hop depuis très longtemps. Et alors lui, il travaille sur quelque chose... Alors, il vient d'un style de graffiti worldwide, très... on appelle ça galactique, un peu comme il l'appelle, tu vois, très... t'es dans le futur, univers, etc. Donc, lui, il déconstruit beaucoup aussi, il étire ses personnages. Et il travaillait pas les visages de la même manière. Lui, c'est beaucoup plus à base d'aplats, etc. Mais c'est de la composition de dingue. Donc, il y a un certain lien entre lui et ce que je fais aussi, parce que je pense qu'il est aussi inspiré par beaucoup ce truc-là de la digitalisation de l'humain qui passe à travers les algorithmes, les destructions des visages. Hein. On est un peu dans Tron, on est un peu dans tous ces trucs-là. Et donc, ouais, il y a un peu de ressemblance, si tu veux. Ouais, je suis pas contre ça. Et voilà, mais après, des fois, ça se rejoint, des fois, ça repart. On est tous en recherche. Pro, en ce moment, est en train de développer un nouveau style aussi. Donc, ouais, c'est très intéressant, quoi.
Ton mur est visible jusqu'au 13 juin, mais il est tout à fait possible de voir déjà un petit peu plus ce que tu fais en allant faire un petit tour sur ton site internet. Tu proposes et tu montres aussi une variété d'œuvres, de travaux et de recherches artistiques.
Yes, le site c'est skio.fr et l'Instagram c'est skio avec un 1 après. Et bien sûr, sur le site internet, ça permet de montrer un peu tout ce qu'on fait, du digital aux peintures sur mur, peintures sur toile. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus mis à jour, c'est moins compliqué. Et puis après, on peut. Là, je vais participer à un salon qui s'appelle Solid Art à Lille. Où on va présenter les marqueteries. Ensuite, j'ai une expo avec la galerie Christiane Vallée vers Clermont-Ferrand, avec des installations. Et ensuite, des salons avec mon galeriste allemand, Pretty Portal, qui sera à Munich. Art Monk, ça s'appelle. Et puis, d'autres projets de fresques et de festivals. Donc, je dois aller à côté de Colmar. Il y a un festival qui s'appelle Arcadia. Voilà, on va peindre dans les vignes, enfin sur des murs. C'est une entreprise qui a des murs comme ça. Et d'autres choses que j'ai oubliées. Mais oui, on peut tout à fait voir sur internet ce que je fais, et c'est d'autant mieux. Comme ça, au moins, on se rend compte de quoi je parle.
Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite dans ce cas, Skio?
On souhaite que le monde aille mieux, parce que les gens, il faut qu'ils achètent de l'art. Parce qu'en ce moment, tout le monde flippe à cause de la géopolitique de partout. Et il y a beaucoup d'artistes, du coup, qui flippent un peu pour leur futur. Donc, on souhaite qu'un peu les choses se calment, un petit peu. Et puis, on souhaite de l'inspiration.
Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, le meilleur pour cette exposition et pour tous les autres projets à venir. Donc, comme je le rappelle, tu l'as dit, on peut voir tes actualités sur ton site internet et sur Instagram, entre autres. En tout cas, je te souhaite le meilleur et merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé.
Merci à toi aussi pour ce temps de discussion qui était intéressant.
À travers cette fresque, réalisée pour le 49e mur d'Épinal, Skio poursuit une réflexion engagée depuis plusieurs années autour de la place de l'humain dans la ville. Une œuvre qui prolonge cette série Human in the City, tout en marquant une nouvelle étape dans son évolution. car derrière la notion d'alter ego, il y a aussi celle d'un artiste en transformation permanente. Entre rues, galeries et nouveaux médiums, Skio revendique une pratique libre, guidée par l'expérimentation et le besoin constant de renouvellement. Une manière d'affirmer que la création ne se fit jamais et que l'artiste, lui aussi, reste toujours en devenir.
Fragment d'art sur Radio Gamozo, avec nous.